VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Conakry, midi à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Au Cameroun, journée de deuil ce lundi en mémoire des victimes du déraillement d'un train qui a fait 79 morts vendredi dernier sur la ligne Douala-Yaoundé. Le point avec Timothée Donangmaï.
De retour dimanche d'un voyage à l'étranger, le président camerounais Paul Biya a promis une enquête approfondie pour faire la lumière sur cette tragédie. Il a aussi ordonné la prise en charge des blessés par l'État. Le gouvernement a de son côté lancé un appel aux dons de sang en faveur de quelques 600 blessés. Les services de secours sont à pied d'œuvre sur les lieux de l'accident à la recherche d'autres corps. L'accident a eu lieu près d'Ezeka, à 120 km de Yaoundé, et l'acheminement des corps vers la capitale politique et Douala, la capitale économique, complique les recherches entreprises par les familles. Même chose pour les blessés, l'hôpital d'Ezeka comptant à peine 60 lits. Le train accidenté transportait plus de 1400 personnes, soit plus du double du nombre en temps normal. Des rames additionnelles avaient dû y être rajoutées face à une demande accrue liée en partie au fait que les transports routiers avaient été bloqués par l'effondrement le 21 octobre d'un pont sur la principale route reliant Yaoundé et Douala.
En RCA, l'appel à une journée ville morte lancé par la société civile est suivi dans plusieurs quartiers de Bangui. Ce projet a suscité la colère du gouvernement, nous dit notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Le groupe de travail de la société civile veut, à travers cette journée ville morte, exiger le retrait de la MINUSCA, la force de l'ONU, dans le pays. Les leaders de cette organisation accusent les casques bleus de non-respect de leur mandat, entre autres la réduction de la présence des groupes armés et la protection des civils. Gervais Lacosso, un des leaders de la société civile.
Nous demandons le départ de la MINUSCA aujourd'hui parce qu'ils ont failli et doublement failli à leur mission. Ils sont là pour protéger la population civile, ils sont là pour réduire la présence des groupes armés, mais les populations civiles meurent chaque jour et devant eux. Et il y a eu une montée en puissance des groupes armés. Pour nous, leur présence ici est inutile.
Le gouvernement n'a pas caché sa colère. Dans une déclaration, il invite les centrafricains au boycott de cet appel. Théodore Jousseau, son porte-parole.
Il y a lieu de s'interroger sur les motivations qui tendent à soutenir l'organisation de cette ville morte. Ville morte pourquoi ? Ville morte pour qui ?
Une pétition de la société civile est en circulation depuis la semaine dernière dans le pays pour exiger le retrait des casques bleus de la MINUSCA, une pétition qui aurait déjà recueilli plus de 30 000 signatures en 72 heures. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Opération Ville Morte également à N'Djamena au Tchad, où le collectif contre la vie chère appelle la population à suspendre toutes les activités aujourd'hui. C'est pour protester non seulement contre les mesures prises par le gouvernement pour redresser les finances publiques et le manque de régularité dans le paiement des salaires des fonctionnaires, mais aussi pour exiger la reprise des activités scolaires et académiques. Idriss Fall adjoint Digam Nayel Nelly Versinis, président du collectif contre la vie chère à N'Djamena.
Le collectif contre la vie chère appelle toute la population de N'Djamena à observer une journée ville morte ce lundi 24 octobre 2016 de 6h à 16h dans la ville de N'Djamena. C'est une ville morte contre les 16 mesures. Ville morte contre le gel des bourses des étudiants. Ville morte contre la corruption érigée en système de gouvernance. Ville morte contre la mauvaise gestion des ressources nationales. Ville morte contre le non-paiement régulier des salaires des fonctionnaires et la bourse des étudiants. Ville morte contre le détournement des deniers publics. Ville morte contre les capitaux placés dans les paradis fiscaux. Ville morte contre la non-reprise des activités scolaires et académiques. Ville morte contre le non-paiement des créances des opérateurs économiques. Ville morte enfin contre la sécurité de la vie.
C'est une sorte de grève générale, quoi. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à paralyser N'Djamena aujourd'hui?
Je crois bien parce que la situation est déjà paralysée. Le pays est déjà malade. Il ne reste que seulement à l'amener à l'hôpital, au pavillon d'urgence, savant que c'est une action qui va s'étaler dans la durée d'une manière répétitive. Donc c'est également une manière de conscientiser la population à prendre son destin en main. Il y a un adage de chez nous, un sac vide ne peut se tenir debout. Le Tchadien n'arrive même pas à manger à sa faim, n'arrive pas à s'éduquer. À quoi bon alors de continuer à croiser les bras ou bien attendre son cercueil à la maison. Il faut sortir.
Le gouvernement dit n'avoir pas tellement de moyens parce que le prix du baril de pétrole a chuté.
Le Tchad n'est pas le seul pays qui exploite le pétrole. Quand on gouverne, on prévoit. Quand on pompait encore le pétrole, le prix du baril était à 100 quelques. Qu'est-ce qui empêchait nos dirigeants à épargner de l'argent? Qu'est-ce qui empêchait nos dirigeants à avoir une caisse d'instabilité? Donc, le résultat que nous vivons aujourd'hui, c'est la mauvaise gouvernance. Et le gouvernement est le seul responsable. Il connaît là où se trouve l'argent. Donc, il n'a qu'à rapatrier l'argent pour faire fonctionner l'appareil de l'État.
Digam Nayel Nelly Versinis, président du collectif tchadien contre la vie chère.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Burkina Faso, la police nationale a mis fin aux activités d'un réseau de recruteurs de jeunes pour des actions de terrorisme. Un terroriste présumé a été abattu dans le cadre de cette opération dans la banlieue de Ouagadougou. Les détails avec notre correspondant sur place, Zoumana Ronogo.
C'est grâce à la collaboration des habitants du quartier Kilouin que la police a été informée des agissements du réseau de recruteurs de jeunes terroristes. Elle a alors décidé d'agir, explique Lazare Tarpaga, le directeur général de la police.
Nous avons donc essayé de suivre les traces et de pouvoir remonter pour savoir si nous pouvons mettre la main sur ceux qui viennent pour effectuer ces recrutements. Ce qui nous a donc conduit à plusieurs domiciles et nous avons débusqué le lièvre que nous avons poursuivi. Et nous avons essuyé des tirs, nous avons riposté. Nous sommes toujours en train de rechercher au moins 3 autres personnes, aussi bien ici à Ouagadougou qu'au niveau de Bobo Dioulasso.
Pour Maïsa Sérémé, le procureur général du Faso, les effets laissés par les recruteurs vont être d'un apport inestimable dans la poursuite de l'enquête. Maïsa Sérémé, procureur général.
Nous avons un sac qui contient des portables, qui contient différents effets que nous allons exploiter pour essayer de retrouver les ramifications avec les complices qui se trouvent à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Nous allons exploiter les différents coups de fil à travers les téléphones portables qui ont été passés pour essayer de retrouver tous ceux qui sont impliqués dans ce recrutement de nos enfants.
Le ministre de la Sécurité, sans vouloir en dire plus, salue la collaboration des populations. Suivons le ministre Simon Compaoré.
Quelques éléments ont été appréhendés et tout cela, comme on a dit, il faut éviter d'en dire trop. Ce qu'on doit rechercher, toutes les forces de défense et de sécurité sont à leur trousse et la population est en train de collaborer efficacement. Donc l'un dans l'autre, pouvons dire qu'à nouveau, Dieu a agi et agi puissamment. Nous avons neutralisé ce qui aurait pu faire couler le sang dans notre pays.
Soumana Bounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Nigeria, l'armée a déjoué une tentative de détournement de navire dans le delta du Niger, dans le sud du pays. Et elle a arrêté lors d'un incident séparé 5 auteurs d'actes de vandalisme contre des installations pétrolières. C'est ce qu'a annoncé hier dimanche un porte-parole militaire. Guerre en Somalie, les islamistes de l'organisation Al-Shabaab se sont emparés hier dimanche d'une autre ville du centre du pays, Halgan, localité dont venaient de se retirer les soldats de l'AMISOM, la force de maintien de la paix de l'Union africaine. C'est ce qu'ont rapporté un porte-parole d'Al-Shabaab et aussi un député de la région. Halgan, dans la région de Iran, est la troisième localité à tomber aux mains des insurgés islamistes depuis le début du mois. Dimanche, le contingent éthiopien qui s'y trouvait a quitté la ville, ce qui a permis aux islamistes d'y pénétrer peu après, a déclaré le porte-parole d'Al-Shabaab. Présidentielle américaine 2016, à 2 semaines de l'élection du 8 novembre, la démocrate Hillary Clinton a encore accru son avance dans les sondages face à son rival républicain Donald Trump. Selon une enquête de la chaîne ABC News publiée dimanche, Mme Clinton recueille 50% des intentions de vote, son score le plus élevé depuis le début de la campagne présidentielle, contre 38% pour le candidat républicain. Et pour terminer en France, l'évacuation de la jungle de Calais, vaste binonville de milliers de migrants dans le nord du pays, a commencé ce lundi dans le calme, selon le gouvernement français qui a déployé un important dispositif logistique sous haute surveillance. Les premiers candidats à la réinstallation se sont présentés dès l'aube pour monter à bord des autocars qui assurent les évacuations vers 451 centres d'accueil répartis sur tout le territoire français. Au total, 6 000 à 8 000 migrants doivent être acheminés durant toute la semaine, les autorités espérant vider totalement le camp pour le démanteler. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. www.voixinton.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.